Doe eens. Faire un peu de ménage, hein? Il se laisse traîner. Cherchez avec moi dans vos Bibles, dans Jean, chapitre 17, s'il vous plaît. À une certaine époque, je prêchais avec des feuilles beaucoup plus petites. J'étais plus jeune. Hein? Aujourd'hui, les feuilles grossissent. Imaginez dans 4 ou 5 ans, là, ça va me prendre l'écran. On va me prendre l'écran pour me reconnaître dans mes textes. Pas drôle vieillir, hein? Jean, chapitre 17, on va lire un texte d'introduction. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que tous soient un. Avant d'aller plus loin, on va se courber dans la prière, si vous me permettez. Oh, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce que tu nous fais ce matin en toute liberté d'ouvrir ta parole, de sonder les Écritures, d'être encouragés ensemble, afin que nos cœurs, Seigneur, puissent s'exalter devant toi, afin qu'on soit bénis dans ta présence. Oui, Seigneur, tu as voulu cette communion, afin qu'on soit unis, afin qu'on soit tout près de toi, et que tu sois près de nous. Bénis ton Église, ton peuple ce matin, bénis nos cœurs, bénis la parole que tu nous permets de recevoir ce matin. Aide-moi à la dispenser, Seigneur, selon ta puissance, selon ton esprit. Bénis cette matinée au nom de Jésus. Amen. La communion avec Dieu et le croyant est non seulement essentielle, mais elle est désirée par Christ lui-même. C'est en fait ce que le texte nous révèle. Nous venons de participer au repas du Seigneur, le mémorial, qui est si important, mais qui nous met en communion aussi avec Dieu. Un mémorial que Dieu bénit, parce que Dieu désire que nous soyons en communion avec lui, lui et ses enfants. Dieu nous a laissé une autre façon extraordinaire de pouvoir être en communion avec lui. Ce matin, c'est de cela que j'aimerais vous partager. C'est par la prière. Oui, la prière. Savez-vous quoi? La prière est un privilège qui nous est accordé afin de s'approcher dans une relation intime et personnelle avec notre Père Céleste. Une relation privilégiée. Une zone privilégiée. Comme le VIP. Hein? On est dans un endroit privilégié, là où ce que Dieu nous rencontre, là où ce qu'on rencontre Dieu, par la prière, un temps de communion au travers de la prière. Je sais que vous priez, mais du moins je l'espère. Je sais que vous priez à la maison. Vous priez pour rendre grâce pour les animaux. Vous priez avec vos enfants quand ils se couchent, quand ils vont au lit. Vous priez à l'occasion. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler ce matin. Ma question est, priez-vous vraiment le Seigneur? Avez-vous cette relation personnel, intime, intense avec lui? La prière, ce n'est pas seulement que prononcer quelques paroles répétitives et souvent, malheureusement, machinalement. C'est souvent comme ça qu'on prie. Des fois, j'entends des gens prier et c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes mots. Ça devient répétitif. Il n'y a plus vraiment d'adoration. Il n'y a plus vraiment de relation. Ça, c'est comme si vous étiez avec votre épouse. Écoutez, ça fait 31 ans que je suis marié, moi. Merci. Merci de m'applaudir. C'est quelque chose, là. Mais imaginez, pendant 31 ans, si on se dirait toujours les mêmes choses. Pas sûr qu'on aurait fait 31 ans, moi. Comprenez-vous? On se serait tanné vite de mes propos plates. Hein? Mais je renouvelle toujours mes propos plates par d'autres propos. Hein? Mais c'est ça, la communion. Comprenez-vous? Quand tu es avec le Seigneur et tu pries, pas juste de dire des... Hein? Imaginez l'Église catholique, ils avaient des livres de prière. Et puis là, si à un moment donné, le curé venait, je me rappelle, une fois le curé était venu visiter mes parents, je n'étais pas chrétien, j'étais adolescent, et puis ma mère, pour être polie, parce que je n'étais pas vraiment, vraiment pratiquant, pour être polie, elle a dit au curé, « Monsieur le curé, j'aimerais ça que vous puissiez faire une prière avant de partir. » Oh, mes amis, là, il était embêté d'aplomb. « J'ai pas mon livre de prière avec moi. » Ça a été sa réponse. Avons-nous besoin d'un livre de prière pour s'approcher de Dieu, dans une relation intime, personnelle avec lui? Pas pantoute. Pas du tout. Prier, c'est écouter. C'est ce que l'Abbé nous dit en Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, qu'on va revenir un peu plus tard dans ce texte, qui dit que l'Esprit doit nous guider dans notre prière. Mais encore faut-il écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Recherchons-nous vraiment ce moment privilégié? Avons-nous un réel rendez-vous avec Dieu au travers de la prière? C'est pourtant un rendez-vous intime. Imaginez, un moment précieux, un moment qui devrait absolument occuper chacune de nos journées que nous sommes vivants. Un moment nécessaire à notre survie spirituelle, je devrais dire. Ce matin, on va se rappeler certains détails essentiels concernant la prière. Le premier détail que j'aimerais partager avec vous, c'est une grande leçon. La prière, c'est une grande leçon qui nous est faite par Jésus-Christ lui-même. Luc, chapitre 11. Je vous dis, ce matin, on a beaucoup de textes à lire, à consulter. Je suis désolé. Des fois, on aime prêcher avec moins de textes possible. Mais là, on va beaucoup de lectures. Vous n'êtes pas obligé de tourner toujours. Vous allez juste écouter parce que je vais lire tous ces textes. Je dois en avoir 80. Non, non. Des farces. 78. Mais c'est important. Mais il y a tellement de choses à dire sur la prière. On ne peut pas tout dire en une seule étude. C'est vrai? On pourrait en apporter différentes études. Je sais que vous en avez entendu des messages sur la prière. Là. Je ne suis pas le fin finot qui arrive. Ils m'ont parlé de quelque chose qu'ils ne savent pas. Là. Ben non. On en a entendu parler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de versets et d'applications par rapport à la prière. Mais j'ai des choses que j'aimerais partager avec vous. J'ai des choses sur mon cœur ce matin, qui sont importantes et nécessaires pour l'Église de Beauport que j'aime beaucoup. Luc, chapitre 11, verset 1, « Jésus priait un jour. » L'important de voir que Jésus était un exemple d'abord, comme un père, comme une mère, c'est un exemple pour ses enfants. Jésus avait-tu besoin vraiment de prier Dieu, son Père? Selon moi, il était plugué direct, lui. Il était direct sur le pipeline. Hein? Mais il l'a fait. Il a prié parce qu'il voulait que les autres le voient prier pour que justement ce qui va se produire au verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus était capable de leur transmettre cette soif. Merci. Bon, tu vas travailler, mon homme. Ton ordinateur va aller vite. Non, non. Hein? Jésus était capable de stimuler les gens. Autant il était capable de les stimuler à l'amour. Ici, il était capable de leur créer la soif de prier. Un de ses disciples a dit, « Seigneur, j'aimerais ça que tu nous enseignes comment prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. N'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ est notre professeur privilégié par rapport à la prière. Ma question ce matin est, prions-nous vraiment le Seigneur? Avons-nous vraiment ce moment privilégié avec lui? Dans Luc, chapitre 22, « Vas-y, mon Simon. » On ne dira pas « Manon, paye sur le piton. » Simon, paye sur le piton. Dans Luc, chapitre 22, les versets 39 à 46. Après être sorti, et on se rappelle ce moment, c'est le moment avant même, il allait là, pour le sacrifice à la croix. Là. C'est, ça allait se passer là, là, dans les heures qui allaient suivre. Verset 39, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Ici, il y a des choses très importantes. Il y a des détails importants dans ce texte par rapport à la prière. Et j'aimerais juste attirer votre attention. C'est sûr qu'on va faire des survols sur nos textes ce matin. Mais regardez, j'aimerais attirer votre attention sur verset 39, par exemple. Après être sorti, il alla selon sa coutume. C'était coutumier pour lui. C'était habituel pour lui. C'était naturel pour lui de prendre un temps, de prier son Père. Parce qu'il voulait que nous aussi, ça devienne une habitude. Pas le faire par habitude, comprenez. Pas le faire parce qu'il faut le faire, mais le faire parce que c'est important de le faire. Selon sa coutume, la prière faisait partie de sa vie. Imaginez, on part une journée pour n'oublier de prier. Ça arrive des fois. Ça m'est arrivé, si vous êtes arrivé. Bon, ça, il nous manque quelque chose. Il semble qu'il y a quelque chose. La journée est partie tout croche, là. On est parti en boitant. On est parti avec notre toit aux roues, là. Il nous manque une roue, hein? Il y a quelque chose qui manque ici. Le verset 39 encore, un autre détail. Il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Le Seigneur avait un endroit privilégié. Il n'avait pas juste un endroit. La Bible nous parle de plusieurs endroits qu'il avait. Jésus priait dans le désert, dans Luc 5, 16. Il priait à l'écart, dans Luc 9, 18. Peu importe l'endroit où il priait. Mais selon sa coutume, il allait prier à un endroit où il se sentait bien, en relation, en communion avec Dieu. Et où votre montagne des Oliviers, vous autres? Avez-vous un endroit privilégié où vous pouvez prier? On n'a pas toutes des montagnes. Puis n'allez pas non plus jusqu'en Israël pour aller sur la montagne des Oliviers chaque matin. Ça va être coûteux. Mais avez-vous votre montagne? Avez-vous votre endroit? Votre petit coin tranquille? Lorsque Dieu peut vous parler et que vous pouvez parler avec Dieu, un rendez-vous, comprenez-vous? C'est comme un rendez-vous galant avec son amour, avec sa bien-aimée, qu'on se donne un rendez-vous, un point de communion, autour d'un repas, autour d'un bon café, à quelque part pour parler, échanger, rire ensemble. C'est la même chose, la prière. C'est une habitude qui doit s'installer dans notre vie parce que c'est une occasion privilégiée que nous avons avec le Seigneur, peu importe l'endroit que vous pouvez avoir. Mais prenez ce temps important avec le Seigneur. Peu importe le moment de la journée que vous allez le faire aussi. Certains, c'est le matin très tôt. Très bon temps. D'autres, c'est dans la journée. Peu importe le moment, le temps. Mais de grâce, trouvez un temps. Trouvez-vous une montagne. Et selon votre habitude, prenez le temps de prier. Le Seigneur nous donne ici l'importance capital, une responsabilité de prier. Au verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il les encourage à prier. Il leur demande de prier, afin qu'ils ne tombent pas en tentation. Verset 41, Il s'éloigna d'eux, il s'est mis à genoux, puis a prié. Verset 42. Il a dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Jésus priait, il était dans une parfaite soumission avec son Père. Le Seigneur veut qu'on vienne au pied du trône de la grâce, en s'humiliant devant lui par la prière, afin de rechercher sa volonté, afin d'être soumis. Verset 46, il leur a dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. » L'urgence et l'importance de prier. Chers frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous êtes des frères et des sœurs qui aimez prendre un temps avec le Seigneur pour prier. Voilà ce rendez-vous important, mais tellement important et nécessaire. Deuxième détail essentiel que j'aimerais partager avec vous, c'est une grande responsabilité individuelle et collective, la prière. Là-dessus, j'aimerais vous lire un commentaire. Un commentaire qui est tiré du livre de John Bunyan sur la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Peut-être que oui, déjà. Ça fait peut-être longtemps. Le mien, il est tout jaune. Ça fait longtemps qu'il existe. Mais il y a tellement de choses là-dedans. John Bunyan, vous savez que John Bunyan, c'est celui, entre autres, qui a écrit « Le voyage du pèlerin ». C'est un homme qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et là, croyez-moi que là, il a appris à prier. Là, il a appris à développer une relation vraiment intime et personnelle, et entrer dans un endroit où ce que personne d'autre était rentré avant lui. Oh oui, il y en a certainement des chrétiens qui ont déjà entré dans cette zone, mais c'est une zone privilégiée, et c'est ça que je veux vous parler ce matin. John Bunyan a écrit, d'ailleurs, il a cité 1 Corinthiens 14, 15 en disant « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. La prière est un ordre de Dieu. » Elle doit être tant publique que privée. Et elle fait entrer dans une grande familiarité avec Dieu ceux qui ont l'esprit de supplication. C'est en outre une action si primordiale qu'elle obtient de Dieu de grands exaucements. Tant pour la personne qui prie que pour celles en faveur desquelles on prie. La prière ouvre le cœur de Dieu. Et pour l'âme vide, elle est un moyen d'être comblée. Par la prière, le chrétien peut ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami et recevoir à nouveau un témoignage de l'amour de Dieu pour lui. C'est vrai. Voyez-vous, John Bunyan avait cette relation. Vous et moi, on peut avoir cette relation. Je vous l'ai dit au début, je sais que vous priez. Je sais que vous passez du temps à prier. Mais avons-nous un temps de communion avec Dieu? Est-ce qu'on communie avec Dieu au travers de la prière? Ça, c'est différent, je pense. Donc, c'est une grande responsabilité individuelle et collective. Jésus a dit, levez-vous et priez. Non seulement c'est un privilège, mais c'est également notre responsabilité. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Un verset facile à retenir, hein? Priez sans cesse. Prenez toutes les occasions que Dieu vous donne pour pouvoir le prier. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voyez-vous comment c'est une responsabilité? Comment importante? Le Seigneur lui-même nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière est une arme, comme c'est décrit dans Éphésiens 5. C'est une arme défensive. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Et je sais que vous êtes tous bien disposés ce matin, mais la chair est faible. Dieu connaît ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il nous invite à la prière. C'est pour ça qu'il nous ordonne de venir et de le prier. Luc chapitre 21, à peu près dans le même sens. Luc 21, 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez, quand une épreuve arrive dans la vie d'un chrétien, on a tous des épreuves à différents niveaux, différentes étapes dans notre vie. Mais quand ça arrive, c'est pas là qu'il faut commencer à savoir comment il faut prier. C'est pas juste quand ça va mal. On dit, hey, qu'est-ce que je ferais bien? Ah, on pourrait peut-être prier. Il faut que ça soit un réflexe. Ça va pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Ça va mal dans cette situation-là. Je suis désespéré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Parce que c'est ça que Jésus a dit. Comprenez-vous? Est-ce qu'on passe vraiment du temps à communier avec Dieu au travers de la prière? Éphésiens, chapitre 6. Nous avons le même type d'enseignement, cette fois-ci de l'apôtre Paul. Éphésiens, chapitre 6. Versets 18 à 20. Merci, Simon. Plus rapide que moi, tourner dans ma Bible. Je sais pas si c'est large, là, mais on va prendre une gorgée de crevain. Désolé d'avoir ri de toi tantôt, hein? Eh non. Et dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et quel beau texte sur la prière. Or, si ce n'est que ce texte que j'aurais pu prêcher ce matin, j'aurais juste dû apporter ce texte, puis le développer, l'élaborer. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voyez-vous l'enseignement que seulement qui est contenu dans le verset 18 est incroyable? Imaginez, faites en tout temps. Ça nous allume, ça, là. Hein? You! Faites en tout temps par l'Esprit! Tu sais ce que John Bunyan a dit? Je prierai par l'Esprit et par l'intelligence que va me donner l'Esprit de Dieu. Pas prier n'importe quoi, non? Pas prier pour des niaiseries. Pas des paroles en l'air. Pas des paroles écrites, s'il vous plaît. Des paroles de cœur. Comme si Jésus était à côté de vous, vous parlez avec lui. Parce que ce n'est pas comme il est avec vous. Il est à côté de vous. Il est en vous. Il est avec vous quand vous priez. Toutes sortes de prières et de supplications, ça va même plus loin que prier. Des fois, on est obligé de supplier Dieu. On a des exemples dans la Bible. On ira pas voir ces exemples. Jacob a supplié Dieu. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Il a lutté dans la prière. Quel privilège! Daniel a prié Dieu. Il a supplié Dieu chaque matin, selon sa coutume, en face de sa fenêtre, en direction de Jérusalem. Il priait. Puis il priait. Puis il n'avait pas de réponse, là. Puis il priait. Puis il priait. Puis l'ange est arrivé et lui a dit, « Depuis le moment que tu as fait ta première prière, on est parti pour venir te donner la réponse. » Mais on a eu des combos. On a eu des adversaires. Des démons. Le diable, est-ce que le diable aime la prière? Non. Est-ce que le diable est content quand vous allez en prière? Non. Parce qu'il sait qu'il est battu là. Comprenez-vous? Aussitôt que vous priez, c'est fini. Quand le croyant ne va pas dans la prière, le diable, il sait qu'il peut le distraire. Il ne peut pas y arracher son salut, mais il peut le distraire, il peut le sortir complètement dehors des rails. Mais quand le chrétien est en prière, il ne peut plus rien faire. Il peut juste essayer de retarder la réponse. Mais tôt ou tard, va arriver cette réponse, n'est-ce pas? L'ange est arrivé, tout poqué, hein? Oh! Ça n'a pas été facile! Ça en a été une toffe! Il est arrivé avec la réponse! C'est extraordinaire, la prière, n'est-ce pas? Avez-vous le goût de prière? J'espère de vous donner ce goût un matin pour que, à mon dernier point, il n'y a plus personne qui me regarde, vous priez tout. C'est quelque chose, hein? Hey, il y a de l'enseignement là-dedans. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est quoi ça, persévérer? Et prier pour tous les saints. Toute une responsabilité, n'est-ce pas? Saint-Joseph, non. Quelqu'un m'avait dit un jour, un catholique m'a dit, c'est pas évident de prier pour tous les saints. Toutes les rues que j'arrive, c'est toujours Saint-Jules, Saint-ci, Saint-ça. Il y a toujours un saint quelque chose à quelque part. Mais c'est pas ces saints-là dont il parle. C'est vous autres, les saints. Le Seigneur veut que je prie pour vous. Il veut que vous priez pour moi. J'espère que vous le faites présentement. Je puisse me rendre jusqu'à la fin. C'est important. Verset 19. Priez pour moi, l'apôtre Paul a dit, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. C'est important. Est-ce qu'on prie? Dites-moi. Répondez pas. Répondez dans votre cœur. Est-ce que chaque dimanche matin, ou même chaque journée de la semaine, je devrais vous dire, pas juste attendre le dimanche, est-ce qu'à chaque jour, vous priez pour votre pasteur qui va prêcher et qui va vous nourrir par les Écritures? Parce que lui ici a des combats toute la semaine. Oh oui! Et oui, quand il prépare une étude, les hommes qui préparent des études le savent, hein? On a une semaine bien dérangeante. Il y a toutes sortes d'affaires pour nous déranger, là. Toutes sortes d'affaires. Imaginez notre pasteur qui a la responsabilité. Est-ce qu'on prie pour lui? Afin que quand il est en avant, qu'il puisse prêcher et pas trembler. Je sais qu'il ne tremble pas. Mais pas trembler, mais qu'il soit ferme. Puis qu'il nous brasse si c'est nécessaire. Pas lui, mais la parole. Faut pas vous dire, oh, hey, un matin, c'était dur, c'était tough. Hey. C'était dur, c'était tough parce que c'est Dieu qui vous a parlé. Amen. C'est le même que je vois ça, moi. Quand ça me dérange, là, au point que ça me bouleverse, là, est-ce que je dois m'en prendre à celui qui prêche en avant? Non, je dois m'en prendre à moi, dans la relation que j'ai avec le Seigneur. J'ai un problème, là. Puis il vient de mettre le doigt dessus. Ça, c'est fatigant. Mais j'aime ça quand la prédication me dérange, moi. Aimez-vous ça? Ah, j'aime ça quand ça me sort en dehors de ma zone de confort. Ah non, j'aime ça. Parce que le Seigneur me ramène toujours. Bien, l'apôtre Paul, il a dit, moi, là, quand je veux prêcher aux gens, là, je veux vous prier pour moi pour que je puisse annoncer hardiment et librement l'Évangile, sans contrainte. C'était pas facile dans le temps de Paul, là. Hein, il se faisait tirer des affaires. On se fait rien tirer, nous autres, là. Hein, notre voisin tire un peu de neige sur le bord de notre cour. On choque. Pas moi, là. Non. Ma femme rit parce que c'est ça. Quand le voisin sort le souffleur, je suis dans la fenêtre, je regarde. Il a besoin de pas souffler chez nous, l'étoile. Je m'en ai y remener. Non, mais c'est pas évident. Hein? Mais l'apôtre Paul, il vivait des moments vraiment, vraiment importants. Mais il avait besoin de cette prière. Verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Est-ce que c'est une responsabilité que j'ai? Oui. Est-ce que c'est une responsabilité que vous avez? Oui. Est-ce que ce texte s'applique pas encore pour nous aujourd'hui ou c'est juste écrit pour les Éphésiens? Ça fait notre affaire. Des fois, on dit, « Ah! Tu plates un peu si ça aurait été écrit pour nous autres. » Mais non, c'est écrit aux Éphésiens. C'est écrit en haut. « Lettre aux Éphésiens. » Moi, j'étais un Québécois. Ça ne pend tout pour moi. Facile, le verset de les Écritures, hein? Eh non, mais là, ça ne marche pas de même, vous le savez. Que pensez-vous de la réunion de prière en semaine? Yvan, tu t'embarques dans les deux pieds d'un plat. Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce temps-là qu'une église locale, le privilège qu'une église locale a d'avoir des bergeries, d'avoir plusieurs bergeries pour permettre à plus de monde de se joindre à ces bergeries-là pour avoir un temps pour prier? Écoutez, je veux pas vous juger, parce que je suis pas mieux que vous, OK? Je veux pas vous mettre de pression non plus, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est quand même important. Selon moi, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, et à chaque fois que nous avons l'occasion, en tant qu'Église, pas juste en tant qu'individu, là, en tant qu'Église, de se réunir pour prier ensemble, pour partager les requêtes, soyons là. 200 dimanche matin, 40 le mercredi. Pas normal. Moi, je sais qu'il y en a qui travaillent. Il y a des occupations. Puis ça, regardez, je comprends tout ça, ces choses-là. Okay? Mais vous comprenez l'importance de cette réunion-là en semaine? Est-ce que c'est important pour nous? C'est un rendez-vous. Imaginez, la Bible dit qu'eux, ils étaient là à chaque jour. On dit, ouais, mais ils ne faisaient rien dans le temps. Ouais, OK, bon, peut-être. Peut-être qu'ils avaient juste ça à faire, prier. C'était bien, hein? Mais on a le temps, nous autres aussi. On a un temps vraiment établi en assemblée. Où est-ce que, puis on devrait, selon moi, c'est un rendez-vous. Tous ceux qui n'ont pas vraiment de raison de ne pas être là, devraient être là. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois sincèrement. Et je sais que le pasteur croit ça. Et je sais que plusieurs d'entre vous le croient aussi. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Et verset 42, Actes des Apôtres, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ce serait le fun, hein? Et David prêche un matin, 3000 personnes sont sauvées. Là, on a un problème de bâtiment, crée-moi. Oh, que tout de suite ça presse, hein? On n'a même pas le temps de le construire, on en achète un autre, là. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein? Évidemment, c'est dans les Actes des Apôtres. C'est au début de l'Église. Hein? L'Évangile se répandait comme une traînée de poudre. C'est incroyable. Gloire à Dieu, ça a fallu que ça commence à quelque part. Hein? Il persévérait, tous ces gens-là, là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, de ce que nous avons fait ce matin, et dans les prières. Quand des chrétiens se réunissent ensemble, ce n'est pas juste de parler des uns des autres. Il faut prier les uns pour les autres. Il ne faut pas se tromper, là. Hein? Hop, on est ensemble, on va parler les uns des autres. Surtout des autres qui ne sont pas là. Mais non. Le verset dit « prier les uns pour les autres ». Même ceux-là qui ne sont pas là. Mais c'est important, ils persévéraient là-dedans. Actes des Apôtres, un autre texte qu'on va voir. Où j'ai mis ça. Actes des Apôtres, chapitre 4, toujours, dans Actes, versets 23 et 24. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâché, on se rappelle l'histoire, hein? Pierre avait été en prison, bon, il avait été blablabla, il avait été arrêté. Après avoir été relâché, ils allaient vers les leurs, vers les frères, vers les sœurs, qui étaient où? Éparpillés. Il y en avait une petite poignée, il était 5-6, les autres, on ne sait pas ce qu'ils étaient. Non. Ils allaient vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils, au pluriel, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, ils ont prié. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de textes, hein? Mais il y en a encore beaucoup plus de textes sur la prière dans la Bible. Oh, que des textes qui parlent de la prière. Pourquoi, vous pensez? Parce que c'est important. Oui. Parce que c'est nécessaire. Si je peux seulement vous encourager ce matin à prier encore plus, à prier encore mieux, à rechercher encore plus cette relation tellement personnelle, tellement intime avec Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5, Actes 12, 5 à 19, que nous allons lire, on se rappelle de l'histoire. Pierre qui était en prison. Donc Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Là, ce n'est plus individuel ici, seulement. Mais c'est collectif. C'est l'Église. Où ils sont? Ils sont réunis à quelque part. Dans un lieu. À quelque part. dans une maison, ça nous dit. Ils sont un gros groupe. Et ils prient pour une situation particulière. Et savez-vous quoi? Leur prière a été exaucée. Pas juste prier pour prier, puis bon, ben voilà, c'est fait. Ma responsabilité est faite. Non, non. Savez-vous pourquoi ils priaient? Puis ils ont été résultats? Parce que la prière, ça marche. Non seulement Dieu, non seulement le Seigneur veut qu'on prie, mais encore, il nous dit, ça va marcher. Priez, et vous allez voir comment ça répond. Verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte. Des sentinelles gardaient devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fut ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit, le suivit, et ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel, il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé le premier garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même. J'imagine que c'était tout un moment à vivre pour Pierre. Hein? Il devait se pincer, vous dire, oui. Tout bien dehors, moi, là. C'était pas un rêve. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Savez-vous quoi? C'est drôle parce que le restant du passage, ils ont dit, ben oui, tu sais, il a cogné à la porte, ils ont dit, ah, hey! C'est ça qu'elle a dit. Rhode a dit, hein? C'est Pierre. On vient de prier pour lui, là. Savez-vous quoi? Il est dehors à la porte. Ils ont dit, bah! Dérange-nous pas dans notre temps. On va continuer à prier, voyons. Je vous le dis, il est là. Même eux autres, ils étaient tous écoutez, ça dépassait de voir comment la prière est puissante, comment Dieu répondait de manière efficace et incroyable à leur prière. Ils ont prié, le Seigneur a envoyé son ange qui a délivré Pierre. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous croyez que c'est un texte historique? Est-ce que vous croyez que c'est uniquement dans l'Acte des Apôtres que ça s'est passé? Ou est-ce que vous croyez que ça peut encore se produire? Moi, je vous dis que oui, ça peut se produire. Ouais. L'Église a besoin de prier. L'Église a besoin d'être réunie dans un seul, dans deux ou dans trois lieux, peu importe. Mais ils ont besoin d'être réunis, l'Église. Et l'Église a besoin d'être réunie pour pouvoir prier, pour que Dieu agisse dans les couples, pour que le cœur des conjoints non sauvés soit sauvé, soit touché par l'Évangile. Pour que les gens qui sont malades, qui souffrent, soient soulagés. Pour que les couples qui ont des difficultés. Et Dieu sait qu'il y en a des difficultés. Soient réconfortés, soient rapprochés. Avons-nous des sujets de prier? Bien sûr, Pierre est plus en prison. Mais on en a d'autres sujets. Selon moi, on en a toute qu'une liste. Mais si on n'est pas là le mercredi pour prier pour ces choses-là, qui va le faire? Frères et sœurs, je vous encourage fortement à vous joindre à une bergerie. Faites-le pas pour moi, faites-le pas pour le pasteur, faites-le pas pour personne. Faites-le pour vous, pour avoir ce temps avec Dieu, puis voir les miracles que Dieu va faire avec votre prière. Extraordinaire ce qu'il peut faire. Vous voyez le texte? Écoutez, on n'a pas inventé. C'est là. C'est vrai. C'est une histoire vécue. C'est extraordinaire. Comment il y avait ici, au verset 12, rappelez-vous, ils étaient dans la maison de Marie, ils étaient la mère de Jean, surnommé Marc. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies là puis qui priaient. Croyez-moi, ça nous prend toute une bonne raison, comme chrétiens, pour ne pas s'assembler pour prier. Oui, il faut être malade, il faut travailler, il faut un empêchement majeur. Chers frères et sœurs, prenez ce temps merveilleux, s'il vous plaît. Priez les uns pour les autres, l'apôtre Paul a dit. J'aimerais arriver rapidement dans mon troisième détail. Je vois que le temps passe beaucoup, rapidement. Mais je sais que communion, il n'y aura pas après. Si je dépasse de 5-10 minutes, j'espère que je ne m'en voudrais pas. Peu importe, je ne serai pas la semaine prochaine pour prêcher, de toute façon. Mais le troisième détail essentiel, j'aimerais qu'on regarde, c'est une grande transformation. Et c'est important qu'on regarde ce texte. Dans Ésaïe, on ne lira pas. Bon, ben, peut-être que tu peux nous le donner à l'écran. Ésaïe 40, verset 31. Pas besoin de tourner dans les prochains textes. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui prient l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. La prière peut transformer vos vies spirituelles, en faire une vie puissante. La prière peut faire toute la différence dans votre vie, dans la vie de l'Église. Un jour, c'est Spurgeon, vous connaissez, c'est le prédicateur Spurgeon, homme de Dieu. Il avait invité un prédicateur pour venir prêcher à son église un dimanche. Et comme tous les prédicateurs qui vont prêcher dans une église le dimanche, le type était nerveux, un petit peu nerveux, toujours un petit peu anxieux avant de commencer à prêcher. Et là, Spurgeon insistait pour dire, « Hey frère, j'aimerais te faire visiter la salle des fournaises. » Le type voulait garder un respect pour Spurgeon, mais il se disait à lui-même, « Bon, ça, c'est pas le temps, là. Bien d'autres choses à faire, moi, que visiter une chambre de fournaise. On ira visiter après, hein? On visitera tous les placards, s'il veut. » Non, Spurgeon insistait, puis il a dit, « Non, 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 frère, je m'excuse. Avant que tu montes sur la chaire, je veux que tu viennes visiter la chambre de fournaise. » Puisqu'il insiste, il est allé, comme bon prince. Donc, il a suivi Spurgeon. Spurgeon a ouvert une grande porte. Et quand il a ouvert la porte, il n'y avait pas moins de 60 à 80 chrétiens qui étaient là à genoux, qui 2 heures auparavant, ils s'étaient réunis là et qui priaient pour que la prédication de cet homme soit puissante. Voyez-vous, la chambre des fournaises, c'était ça, sa chambre des fournaises. Pourquoi c'est important? Ce matin, je suis content. Le pasteur fait une belle initiative, et je sais que c'est sur son cœur, et c'est sur son cœur. Le groupe musical, ce matin, avec l'équipe technique, le conducteur, se sont réunis pour prier avant la réunion, pour qu'eux soient bénis, pour qu'ils soient après ça une bénédiction pour vous, pour moi. Et j'espère qu'à tous les dimanches, ça va se faire. Parce que c'est essentiel, c'est pas juste un petit rituel, là. Comprenez-vous? Et pas juste 15 minutes avant le dimanche. Vous êtes sur, vous savez que vous êtes conducteur, que vous êtes musicien et que vous devez être là dimanche. Priez. Commencez donc à prier, là. Vous avez l'horaire devant vous pour que le Seigneur vous soyez une bénédiction pour les frères et sœurs, pour que les cœurs soient préparés à la louange, pour que chaque personne qui va se présenter ici soit amenée au trône de la grâce de Dieu. Prière, chers frères et sœurs. Grande transformation. La Bible dit dans Jacques, chapitre 5, je ne m'attarderai pas dans ce texte parce que je sais que notre pasteur va l'utiliser parce qu'il est en train de traverser le livre de Jacques. Ça serait plate que j'y enlève son message. Hein? Qu'ils disent, ah, j'aurais bien prêché là-dessus, il a lu la fête. Non, non. C'est plate. Je suis content de passer avant lui, par exemple. Dans Jacques, chapitre 15, chapitre 5, verset 14. Oh, ça, c'est nouveau. Jacques 15. Jacques, chapitre 5, verset 14 jusqu'à 18. On va juste le lire. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi, pas l'huile, hein? C'est la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière agissante du juste ont une grande efficacité. Après ça, ça nous parle d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Pareil. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il n'a pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Après ça, il a prié à nouveau, puis là, il a commencé à pleuvoir. Élie est un homme de la même nature que nous. La seule différence, c'est qu'Élie est un homme de prière. Puis je ne devrais pas dire une différence, parce qu'on est des hommes et des femmes de prière. Amen! Oui. On est des hommes et des femmes de prière. Amen! Oh, un peu plus, c'est bon. Non, je pensais vous avoir eu là, par le sommeil. Alors, c'est un texte important. Si je sais que David va le développer, il va travailler ce texte parce qu'il fait partie de Job. C'est important, mais rappelez-vous que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Priez par l'Esprit, la Bible nous dit. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Deux petits passages qu'on termine. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Paul l'a dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est notre dernier texte, verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15. « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Chers frères et sœurs, désirez-vous une vie terne, sans but, sans vision? La recette, c'est pas compliqué. Arrêtez de prier. Au contraire, désirez-vous une vie abondante, riche, prospère, stimulante? Mettez-vous à prier. Et à prier sans relâche. Et à prier sans cesse. Désirez-vous une église stagnante, un ministère qui va nulle part? Ou si désirez une église puissante, qui va grandir en nombre, qui va grandir en force, qui va grandir en cœur? La communion avec Dieu passe, sans aucun doute, par la prière. Nous aurons une Église transformée. Nous aurons un ministère transformé. Et nous aurons un service transformé. Terminons par la prière. Ô notre Dieu, notre Père, que nos cœurs puissent être touchés ce matin, encouragés à prier, à s'approcher de toi. Ça change des vies, Seigneur. Tu as changé ma vie par la prière. Je sais que tu es capable de changer la vie de mes frères, mes sœurs. Je sais qu'on va voir des miracles se produire. Parce que tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé, là. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons moins de foi. C'est nous qui ne persévérons pas dans la prière. Parce qu'on verrait des conjoints non sauvés sauvés. On verrait des vies brisées à être rétablies. On verrait des grands miracles. Et c'est ce qu'on veut voir, Père Céleste, ce matin. Au travers des Écritures, des textes qu'on a lus, qu'on a vus, tous ces exemples, tous ces détails essentiels, tu nous appelles à la prière, notre Dieu. Moi, j'ai à cœur que cette Église soit transformée. Bien que c'est une église qui va bien, c'est une église en santé. Mais Seigneur, tu peux encore faire plus. Tu peux encore nous rendre encore plus resplendissants. On peut encore créer encore davantage de ministères autour. On peut être une bénédiction pour d'autres régions, pour d'autres œuvres. On peut être une église riche, pas en argent, riche spirituellement. Prends notre église en tes mains. Prends nos cœurs, mets à chacun de nous la responsabilité de prier. Ne pas dire, je laisse ça aux autres, il y en a qui prient, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont s'occuper de ça, le pasteur, les diacres, les autres. Non, Seigneur, individuellement, que moi,
moi, Yvan, je commence par cette responsabilité. Merci, Père, pour le temps précieux et privilégié que tu viens de nous donner. Bénis le temps de communion qui va suivre. Ce matin, c'est un avant-midi de communion. Tout d'abord avec ton repas, par la suite avec la prière, et bientôt avec ce repas partage en bas. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. J'invite l'équipe musicale. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Je sais que vous allez...